Salut à vous. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, l'exemple d'Ebed-Mélec. Parfois, il nous arrive de prendre un personnage dans la Bible et de décrire ses qualités pour nous montrer ce que nous devons développer, comme très caractéristique pour plaire à Dieu et nous préparer à notre rôle dans le monde de demain. Et l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui s'applique bien à ça. Il y a de grandes leçons à tirer de l'exemple qui a été donné par Ebed-Mélec. Cet homme-là, c'est pas un homme qui occupe beaucoup de place dans la Bible. Il est mentionné dans un seul passage de l'Ancien Testament. C'est un eunuque, un homme tout simple, un homme effacé. En fait, c'est un esclave. Mais il a fait de grandes choses et on voit son caractère dans l'action qui est décrite dans les passages que je vais vous montrer. Parce que c'est un personnage remarquable, remarquable. Un homme, on peut dire, de caractère. Et nous, on doit devenir des hommes et des femmes de caractère pour travailler dans le monde de demain et être ces dirigeants serviteurs qui vont vraiment aider les êtres humains. Un personnage remarquable par sa foi. Et je dois mentionner au point de départ que ce n'est pas un Israélite. C'est un Éthiopien. Et dans le monde des Israélites où il se trouvait, c'était une lumière parce qu'autour de lui, les gens s'étaient détournés de Dieu. Et pourtant, cet étranger-là qui n'était pas Israélite, lui, a cru à Dieu. Alors, il est remarquable par sa foi. Il est remarquable par ses actions courageuses, comme on va voir tantôt. C'était basé sur ses convictions. Quand on a des convictions, là, qu'on y tient, on pose des gestes en conséquence. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas laissé sa peur le diriger ou l'empêcher d'agir, l'arrêter. Et c'est un personnage remarquable aussi par sa bonté envers les autres. Et en particulier dans le contexte qu'on va voir, par sa bonté envers un des serviteurs de Dieu, envers Jérémie, qui était dans une position épouvantable. Jérémie avait servi Dieu pendant des dizaines d'années, et là, il était rendu à une situation où il souffrait beaucoup, il était découragé, il était abandonné par tout le monde autour de lui, rejeté par les autorités de son pays, par les siens, ceux de sa nation, et il risquait la mort, il risquait de mourir. Maintenant, on va regarder le contexte avant d'arriver aux détails concernant Ebed-Mélec. On va regarder le contexte. Le contexte où ça s'est arrivé, c'est un contexte semblable, ou même, je dirais, pareil au contexte d'aujourd'hui. La nation avait abandonné Dieu, comme nos nations ont abandonné Dieu. Et la nation, elle était sur le point d'être détruite, comme l'annonçait le message de Jérémie. C'était, si on le situe dans le temps, c'était au moment de la troisième vague d'invasion de Nebuchadnezzar sur Jérusalem. La troisième vague qui a été la vague finale, où il a pris Jérusalem, détruit le temple et emmené le peuple en captivité dans son pays. La première vague avait eu lieu en 604 avant Jésus-Christ. La deuxième vague en 596 avant Jésus-Christ. Et la troisième vague, celle où il avait tout détruit, s'est produite en 587 avant Jésus-Christ. Alors, Nabucodonosor était directement impliqué. Et le roi qui était en place à ce moment-là, c'était le roi Sédécias, qui a été le dernier roi sur Juda. Il était à Jérusalem. Reportez-vous à Jérémie, le chapitre 37, s'il vous plaît. Jérémie, chapitre 37, et peut-être vous pouvez mettre un signet à cet endroit, parce qu'on va revenir plus régulièrement dans ce passage. Jérémie, chapitre 37. On va lire les versets 1 et 2. On va voir le contexte. Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Jéconia, fils de Joachim. Et il fut établi roi dans le pays de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'était quelqu'un de la famille royale. Mais après la deuxième invasion de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait désigné cet homme-là pour être, si vous voulez, son représentant, pour être roi sur la nation d'Israël. Bon, ça c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, le contexte. Mais regardez verset 2, qu'est-ce que la nation et le roi faisaient par rapport au message que livrait Jérémie annonçant la destruction prochaine s'il ne changeait pas. Ni lui, c'est-à-dire le roi, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays n'écoutèrent les paroles que l'Éternel prononça par Jérémie, le prophète. Personne n'a prêté l'oreille. On va voir ce qu'en dit un contemporain de Jérémie, Ézéchiel. Allez juste un peu plus loin. Ézéchiel, le chapitre 3. Ézéchiel a vécu la même période que Jérémie, a annoncé les mêmes désastres aussi. Ézéchiel, chapitre 3, et on va lire le verset 4. Il me dit, alors ça c'est la mission qui avait été confiée à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël. Et regardez maintenant au verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Alors Dieu avait dit à Ézéchiel, livre le message, mais ils ne voudront pas t'écouter. Et ça a été la même chose pour Jérémie. Même situation, comme aujourd'hui. L'ensemble de nos nations israélites ne veulent pas écouter le message, refusent de l'écouter, et même vont devenir hostiles bientôt à ceux qui annoncent ce message, comme ça a été dans le passé à certaines époques. Ça n'a pas arrêté Jérémie. Jérémie est un bon exemple dans ce sens-là, parce que ça ne l'a pas empêché de continuer. Il y a eu des inconforts, il y a eu des peurs, il y a eu des risques, mais il a continué. Il accomplissait sa mission. Il livrait le message de Dieu tel quel. Et c'était pas un message agréable, ou c'était pas un message populaire, absolument pas. Il annonçait la nation à la nation, si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas, toute la nation sera détruite et vous serez amenés en captivité. Vous serez amenés esclaves dans d'autres pays. Ce n'est pas des nouvelles joyeuses là à être annoncées, mais c'était sa responsabilité. Et le fait d'annoncer quelque chose comme ça, ça n'a jamais aidé quelqu'un à remporter un concours de popularité. Au contraire, la personne devient comme un adversaire même. Jérémie avait donc annoncé des désastres si la nation ne se repentait pas, si elle ne changeait pas. Puis à un moment donné, au milieu de son travail, qui avait été très exigeant et où il y avait eu beaucoup d'opposition, à un moment donné, il a voulu s'éloigner un peu de Jérusalem. Je pense que c'était pour prendre une pause puis respirer un peu. Si on se met à sa place de ce qu'il avait à faire, personne n'était pour lui, là. Tout le monde était contre lui. À un moment donné, il avait besoin de respirer un peu. Regardez Jérémie 37. On va lire les versets 12 à 14. Jérémie voulut sortir de Jérusalem pour aller dans le pays de Benjamin et s'échapper du milieu du peuple pour avoir un petit répit, pour prendre une petite pause. Il était contraire à tout le monde dans le pays et tout le monde dans le pays commençait à lui en vouloir. Verset 13. Lorsqu'il fut à la porte de Benjamin, là où il allait, le commandant de la garde, nommé Jiraïja, commandant de la garde, fils de Shelemia, fils de Anania, se trouvait là. Et il saisit Jérémie, le prophète, en disant, « Tu passes aux Chaldéens. » Donc, parce qu'il avait quitté Jérusalem et qu'il s'en allait dans une des villes de Benjamin, le chef de la garde qui était là, il dit, « Ah, tu es en train de t'en aller à l'ennemi, tu vas être contre nous. » Surtout que tu es en train de nous annoncer des choses terribles de la part de l'ennemi. Tu veux être protégé, tu veux t'en aller là-bas. Voyez-vous le genre d'accusation qui peut arriver dans ces circonstances-là? Alors que le travail de ce prophète-là, de Jérémie, c'était d'essayer de sauver la nation, d'empêcher la nation de souffrir toutes ces choses-là qui venaient. Mais on l'accusait du contraire. On l'accusait même de vouloir aller à l'ennemi. Verset 14, Jérémie répondit, « C'est faux, je ne passe pas aux Chaldéens. » Mais Jiraïja ne l'écouta point. Il arrêta Jérémie et le conduisit devant les chefs. Alors, c'est souvent ce qui arrive aux serviteurs de Dieu qui annoncent ce genre de choses-là, qui ne sont pas acceptées par les gens, qui mettent les gens en colère. Fausses accusations, et ça vient ce jour-là pour l'Église de Dieu. Les gens prêtent de fausses intentions à ceux qui annoncent ces calamités-là. On emploie le mot prophète de malheur, comme si c'était le prophète qui faisait venir le malheur, alors que c'est pas ça. Le serviteur de Dieu doit annoncer ce qui vient pour protéger ceux qui l'entendent. C'est pas nouveau, les fausses accusations. C'est arrivé à M. Armstrong à plusieurs reprises. Je me rappelle, j'ai lu concernant M. Armstrong, puis on le voit dans sa biographie aussi. On l'a accusé, par exemple, de faire tout le travail qu'il faisait pour l'argent. Ben, ceux qui ont fait ça ont pas vu toute l'histoire de l'Église. Parce qu'il y a eu plusieurs années au début de l'Église où M. Armstrong était très, très, très pauvre. Si vous regardez son autobiographie, à certains moments donnés même, il raconte qu'il mettait des cartons dans le fond de ses chaussures parce que ses chaussures étaient percées. Et il raconte à un moment donné une histoire où il a dû vendre des vieilles revues dans sa cave à un brocanteur. Ça lui a permis d'acheter un peu de lait pour sa petite fille. Mais il tenait au sabbat, aux fêtes, lui et son épouse. Il était tout seul au début. Il a continué malgré tout ça. Après, l'Église est devenue plus prospère. Mais il n'était pas là pour ça. Il a passé toutes ces années-là dans de grandes, grandes difficultés. Alors, il n'était pas là pour l'argent. Même, il a connu vraiment la pauvreté. Alors, je reviens à ça. Ces accusations-là sont faciles. Elles ont toujours été et elles vont être encore. Alors, les chefs de Juda accusent maintenant Jérémie de vouloir passer chez Nebuchadnezzar pour sauver sa peau. Alors, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jérémie? Allons plus loin. Jérémie 37, on va lire les versets 15 et 16. 37, 15 et 16. Les chefs irrités contre Jérémie le frappèrent. Ils l'ont battu. Ils ont battu le serviteur de Dieu et le mirent en prison dans la maison de Jonathan, le secrétaire, car ils en avaient fait une prison. Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots où il resta longtemps. Le roi a laissé faire ça. Le roi Sédécias a laissé faire ça. Et plus que ça, le roi Sédécias, lui, il appelait Jérémie en cachette pour savoir ce que Dieu avait dit. Il voulait savoir ce qui s'en venait, puis il voulait peut-être trouver une façon de sauver sa peau aussi. Mais il l'appelait en cachette. Regardez, verset 17. Le roi Sédécias l'envoya chercher. Il envoya chercher Jérémie dans la prison. Il l'interrogea secrètement dans sa maison. Pas très courageux, le roi. Il a questionné secrètement. Il a demandé, y a-t-il une parole de la part de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dis-moi, Jérémie, ce que Dieu a dit en ce qui me concerne, en ce qui concerne la nation. Jérémie répondit, oui. Et il ajouta, tu seras livré entre les mains du roi de Babylone. Il donne la réponse très claire de ce qui s'en vient. Verset 18. Jérémie dit encore au roi Sédécias, en quoi ai-je péché contre toi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal contre toi, contre la nation, pour que vous me traitiez comme ça et que tu laisses faire ça, toi le roi? En quoi ai-je péché contre toi, contre tes serviteurs et contre ce peuple, pour que vous m'ayez mis en prison? Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Et après ça, il va plus loin. Regardez ce qu'il dit. Où sont vos prophètes, vos faux prophètes, qui vous prophétisaient en disant, « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays. » Il y avait déjà des faux prophètes qui disaient au peuple, « Nabuchodonosor ne reviendra pas, il ne conquérera pas Jérusalem, ne soyez pas inquiets. » Comme on entend aujourd'hui des faux prophètes qui mentionnent ces choses-là. Comme on entend des faux prophètes de l'économie aussi qui disent, l'économie n'est pas en difficulté, on approche d'une période où ça va aller beaucoup mieux, l'inflation c'est simplement temporaire et tout ça. Il y a tous ces faux prophètes, soit économiques, soit religieux, qui sont à l'action. Alors, ici, Jérémie profite de l'occasion pour dire au roi, écoute, t'as des gens qui t'ont annoncé là que Nebuchadnezzar viendra pas, là. Ben, Nebuchadnezzar, il est juste en dehors de la ville, là. Toute son armée est là. C'était la troisième fois qu'il venait. Verset 20. Maintenant, écoute, je te prie, mon Seigneur, et que mes supplications soient favorablement reçues devant toi. Ne me renvoie pas dans la maison de Jonathan le secrétaire de peur que je n'y meure. Le traitement ne devait pas être facile, là. Le roi Sédécias ordonna qu'on garde Jérémie dans la cour de la prison et qu'on lui donne chaque jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que tout le pain de la ville soit consommé. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour de la prison. Il y avait une énorme famine. Alors, le roi a dit, « Donnez-lui du pain, mettez-le dans la cour de la prison et donnez-lui du pain. » Mais Jérémie a continué son travail. L'Église doit continuer son travail, quelles que soient les circonstances. Il a continué d'annoncer son message. Alors, regardez Jérémie 38, versets 2 et 3. On va voir quel est ce message. « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, aux soldats de Nebuchadnetsar, aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. » Ce que Dieu avait prévu, c'est que les habitants de Jérusalem devaient se rendre comme prisonniers à Nebuchadnetsar et que là, il y aurait la vie sauve dans ce cas-là. C'était la directive que Dieu avait donnée. Ça faisait partie du message. « Et il vivra. » Et regardez le verset 3. « Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. » Ça, c'était l'assurance qui était donnée. Mais, je reviens à ça, le roi était très faible. Le roi ne dirigeait pas grand-chose. On va le voir plus en détail. Sédécias était inconstant, comme les vagues de la mer, comme dit la Bible. Hein? Quand on est inconstant sur nos façons de faire et tout ça, c'est pas fort. Il était inconstant, il était, je dirais, un peu comme malheureusement plusieurs de nos politiciens aujourd'hui, qui attendent de voir les sondages d'opinion, pour savoir quelle direction ils vont prendre, pour savoir quel bord ils vont pencher, pour voir s'ils seront pour ou contre telle chose. C'est évident quand on regarde les bulletins de nouvelles. C'est incroyable. Ils se laissent intimider par ce qui se passe autour d'eux. Et ils se laissent guider par les événements et par les cris les plus forts, si vous voulez. Et leur position sur un sujet, comme on le voit, peut changer d'un jour à l'autre. Donc, c'est pas basé sur quelque chose de solide. Ça va avec le vent, avec ce qui se présente. Alors, Sédécias, là, c'était cette sorte d'homme-là, faiblesse morale, irrésolu, inconstant. Il n'assumait pas son poste de leadership. Vous savez, quand on a un poste de leadership, il faut baser notre travail sur des principes et il faut défendre ces principes-là envers et contre tous, avec sagesse, bien sûr, mais envers et contre tous. Il n'assumait pas son leadership. On le voit, un autre moment donné plus tard, quand il retourne demander à Jérémie qu'est-ce qu'il peut avoir de nouvelles à lui donner de la part de Dieu. Allez juste un peu plus loin, Jérémie 38, verset 17. Jérémie dit alors à Sédécias, qui l'avait fait venir encore une fois, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. » C'est Dieu qui lui garantissait. Et cette ville ne sera pas brûlée. Jérusalem ne sera pas détruite par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne te rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens, qui la brûleront par le feu. Toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Verset 19, le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. » Il y avait déjà un certain nombre de citoyens de la ville de Jérusalem qui étaient passés du côté de l'ennemi à ce moment-là. Et regardez le roi, il dit, si je fais ça, là, si je me rends à Nebuchadnetsar, il y a déjà des Juifs qui sont là, ils vont m'en vouloir, ils vont m'haïr. Je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens. Je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils ne m'outragent. Voyez-vous, ça c'était le roi qui était sur la ville de Jérusalem à ce moment-là. Il n'assumait pas son leadership. Et il craignait à ce moment-là, on peut le mettre dans ces termes-là, il craignait les hommes plutôt que Dieu. Et dans son cas, Dieu l'avait averti tellement de fois, très clairement par le prophète, de ce qui s'en venait. Mais il craignait les hommes plutôt que Dieu, contrairement à Ebed-Mélec, comme on va voir tantôt. Ebed-Mélec, lui, a donner sa confiance à Dieu et non pas à des hommes, même si ça semblait contraire à toute logique. Jérémie 38, verset 4. Jérémie 38, verset 4. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Autrement dit, en annonçant que s'ils ne se rendent pas à Nebuchadnezzar, ils vont être emmenés en captivité et la ville sera détruite. Les chefs qui étaient sous le roi ont dit, cet homme-là, là, ce prophète-là, décourage les gens et c'est pas bon. Il ne cherche pas le bien de ce peuple et il ne veut que son malheur. C'est ce qu'il leur disait. Jérémie, pourtant, on le voit dans tout le contexte et par après, il voulait épargner sa nation, comme je mentionnais tantôt. Il leur disait qu'ils seraient épargnés s'ils suivaient le seul chemin possible, changer. Comme ça nous est donné à nous, le seul chemin possible pour avoir la vie éternelle et non pas la mort éternelle, c'est de changer avec l'aide de Dieu. Il leur disait, il faut que vous vous repentiez, que vous changez. Et c'est ce que l'Église de Dieu annonce aux nations israélites en particulier, et aux membres de l'Église aussi, de continuer à le faire, ceux qui ont été appelés et qui ont la responsabilité maintenant de se préparer à gouverner le monde de demain. C'est un peu comme les événements du temps de la fin dans lesquels nous sommes entrés. C'est un peu comme quand viendra le temps du départ aussi vers le lieu de sécurité. Le message que Jérémie donnait à ce moment-là, ça semblait illogique aux yeux des gens. Hein? Jérémie dit, les chefs disent au roi, cet homme-là détruit la nation parce qu'il leur dit de se rendre à l'ennemi, alors que Jérémie avait dit, rendez-vous à l'ennemi, Dieu promet de vous protéger. Si vous faites ça, ça fait partie de son plan à ce moment-ci. Alors, quand on est loin de Dieu, quand on enlève Dieu du portrait, on n'a rien sur quoi baser nos décisions, rien sur quoi établir nos choix. Et parfois, les choses ne semblent pas logiques. Ça ne semblait pas logique à leurs yeux d'arrêter toute activité puis de se rendre à Nebuchadnezzar. Pourtant, c'était la solution, même si ça semblait pas logique. Quand viendra le temps de partir pour le lieu de sécurité? Il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sembleront pas logique. Sauf pour ceux qui seront proches de Dieu et qui auront suffisamment de son esprit pour comprendre les choses qui se passent. Vous irez voir dans Daniel 12, verset 10. Je vous cite simplement le principe qui est mentionné là. Dans Daniel 12, le verset 10, aucun des méchants, c'est-à-dire aucun de ceux qui font le mal ou qui gardent le mal dans leur vie ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui seront fidèles à obéir à Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits, mais qu'ils s'attachent à Dieu, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ça fait toute la différence. Autrement, ce n'est pas logique à l'œil humain. Mais Dieu demande des choses parfois qui sont vraiment surprenantes et qui ne vont pas nécessairement avec la logique humaine. Absolument pas. Alors, on va aller plus loin ici. On voit la faiblesse du roi. Le roi s'était détourné de Dieu, de toute évidence, parce que il ne comprenait pas et ne voyait pas les choses avec l'œil de Dieu. Il voyait les choses de l'œil humain. Regardez le verset 5. Après que les chefs ont dit, Jérémie, décourage l'armée, décourage le peuple, faut le tuer. Regardez ce que le roi a dit. Le roi Sédécias, verset 5. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains. Jérémie est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Ben oui, il était seulement le roi, pauvre petit roi. C'est les dirigeants sous lui. Là, le roi leur dit, « Moi, je peux rien faire, là, fait que je vous le laisse. Faites ce que vous voulez avec. » Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec, et ils voulaient le tuer. Regardez le verset 6. « Alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malchija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. » Alors, vous imaginez la position de ce vieil homme-là qui pénètre dans la boue jusqu'où il pas jusqu'au visage parce qu'il serait mort automatiquement, mais il a enfoncé dans la boue, donc il a calé un bon bout. C'est clair que ces hommes-là ne voulaient pas avoir de sang sur leurs mains, ils ne l'ont pas tué eux-mêmes. Ils ont fait un peu comme les Juifs au moment de la mort de Christ. Ils ont dit à Pilate, crucifie-le. Nous, on ne le fera pas, mais toi, fais-le à notre place. C'est un peu le même scénario, si vous voulez. Mais c'était une condamnation à mort pour Jérémie. Ça vous donne une idée du contexte. Mais le contexte est encore beaucoup plus compliqué que ça pour Jérémie. Parce que la ville était assiégée, l'armée était là, là, les attaques avaient lieu. Et la famine dans la ville s'aggravait. Ça veut dire que l'atmosphère et l'attitude des gens n'étaient pas à son meilleur non plus, là. Imaginez une ville qui est assiégée et qui a de moins en moins à manger. Les gens deviennent violents, deviennent agressifs. La famine s'aggravait. Et personne n'allait s'occuper de Jérémie, le prophète de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'Ébed-Mélec est entré en action. L'illustre inconnu. Vous savez ce que veut dire le nom Ébed-Mélec? Ça dénote beaucoup de choses. Le nom qu'on donne à ce personnage-là, qui est pourtant remarquable par son caractère et ce qu'il a fait, son nom veut dire « esclave du roi ». Ébed-Mélec, c'est « esclave du roi » ou « serviteur du roi ». Ça veut dire que le nom qu'on lui avait donné signifie qu'il avait peu d'importance. Hein? Il n'avait pas de nom personnel. C'était un des serviteurs du roi. Et on disait c'est le serviteur du roi ou l'esclave du roi. Donc, on ne le désignait pas par son nom, s'il y en avait un, mais on le désignait par sa fonction. Il était dans la maison du roi. C'était un esclave du roi. Alors, voilà le personnage. C'était pas un personnage flamboyant, là. Un homme simple. Jérémie 38, maintenant, on va voir comment Ébed-Mélec va agir devant la situation. Jérémie 38, versets 7 à 9. Ébed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque, qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ébed-Mélec sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra là de faim où il est, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Alors, voyez-vous, cet homme-là s'est rendu auprès du roi. Il est sorti de la maison, il est allé rencontrer le roi à l'extérieur et il a mentionné cette chose-là. Et regardez le verset 10. « Le roi donna cet ordre à Ébed-Mélec, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. » C'était clair qu'il allait mourir. Maintenant, je m'arrête un peu. Le roi a dit « Prends 30 hommes avec toi. » Je pense pas que ça prenne 30 hommes pour sortir un homme d'un puits, même si l'homme est entré dans la boue. C'est sûr que quand on est dans la boue, ça demande plus de pression pour sortir. Si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'entrer dans un marais, là, par exemple, et puis de caler, pour ainsi dire, presque jusqu'aux genoux. Là. Et quand on veut sortir, il y a une suction qui s'exerce et ça demande beaucoup, beaucoup de pression. Je vois que certains d'entre vous avez vécu la même chose. Là. Alors, Jérémie était dans cette condition-là. Il y avait peut-être de la boue jusqu'à la taille, donc ça prenait une certaine force. C'est sûr que Ébed-Mélec avait besoin de quelqu'un avec lui pour l'aider à le soulever. Mais il n'avait pas besoin de 30 hommes pour ça. 30 hommes, c'est parce que les chefs religieux étaient là. Et eux auraient pu facilement s'en prendre à Ébed-Mélec et tout faire dévier le processus d'épargner la vie de Jérémie. Alors, le roi a dit, amène 30 hommes avec toi. Sous-entendu, si les chefs s'en prennent à toi, vous allez pouvoir réagir en conséquence. C'était comme une protection que le roi lui accordait à cause des dangers que présentaient les chefs. Lisons maintenant 11 à 13. Ébed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons, des vieux vêtements, et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Ébed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Alors, là, je m'arrête juste un peu pour que vous voyez qu'il fallait avoir une attitude de héros, je dirais même de héros de la foi, pour faire ce que Ebed-Melet a fait. Parce qu'écoutez, comme bon nombre de membres de l'Église, j'ajoute, sont des héros, et ça ne paraît pas, parce qu'ils posent des gestes, même si ce n'est pas des gestes aussi éclatants que le geste posé ici par Ebed-Melet. Il y a plusieurs membres de l'Église que je connais, dont j'ai eu connaissance à travers l'histoire, qui ont fait des choses extraordinaires, des actions qui n'étaient pas éclatantes, mais qui ont aidé d'autres personnes à des moments stratégiques. Des gestes d'aide, des paroles d'encouragement, des paroles de consolation, des paroles de soutien, une petite carte, un téléphone, un bon mot. Ça, c'est des gestes aussi importants, dans le fond, que ce que Ebed-Melet a fait, parce que ça change la vie des individus. Un peu de baume sur une blessure, sur un découragement, sur un creux de vague, sur un questionnement, ça fait toute la différence pour permettre à quelqu'un de continuer. Et c'est ce que Ebed-Melet a permis à Jérémie, qui lui était prophète, de continuer son ministère. Parce que c'est même lui, Jérémie, plus tard, qui a amené les filles de Sédécias dans les îles britanniques et qui a permis la continuation de la dynastie du trône de David qu'on retrouve encore à Londres, dans la reine Élisabeth, descendante de David. Alors voyez-vous, il y a une suite à ce qu'Ebed-Melet a fait. Et il y a une suite à ce que les membres de l'Église font les uns pour les autres. Ce n'est pas en vain, absolument pas. Alors, Ebed-Melet, homme de qualité remarquable. Premièrement, courage. Courage. Parce que ça prenait énormément de dynamisme et de courage pour aller devant le roi dans cette situation-là, face à ce besoin. Parce que le roi n'était pas vendu à l'idée d'abord de protéger Jérémie, parce qu'il l'avait remis entre les mains de ses chefs d'armée. Alors, voyez-vous, déjà, ça prenait du courage pour Ebed-Melet de dire « je vais aller à l'encontre de ce que le roi pense, au fond, ou de sa mollesse ». Il aurait pu avoir toutes sortes de réactions de la part du roi. Ebed-Melet s'en est remis à Dieu et est allé vers le roi. Il a même été plus loin parce que il a dit au roi, quand vous regardez le contexte, il a dit au roi, ces hommes-là, là, ont mal agi. Ils n'ont pas fait le bien. Alors, dans le fond, il reconnaissait la faute de ces gens-là et la participation du roi à cette faute-là qui les avait laissés faire. Voyez-vous la position dans laquelle Ebed-Melet se plaçait? Mais il est allé quand même. Et il va même à l'encontre, je dirais, du vrai pouvoir qu'il y avait dans le pays. Parce que le vrai pouvoir, c'était pas le roi. C'était ses gens autour de lui. C'était les chefs d'armée, c'était les dirigeants. Alors, il allait à l'encontre du vrai pouvoir, auquel même le roi n'osait pas s'opposer. Ça, si on met les choses dans la bonne perspective, c'est ça. Le roi était pas capable de s'opposer aux chefs militaires et aux dirigeants qu'il avait sous lui. Et Ebed-Melet, lui, allait dire au roi, dans le fond, ce qu'il fallait faire pour sauver Jérémie. Alors, ça prenait énormément de courage. Il ne s'est pas laissé, autrement dit, intimider. Et il n'a pas laissé sa peur prendre dessus. On voit par le contexte qu'il a eu peur. Et c'est normal, c'est humain. On se retrouve parfois dans des situations où on a peur. C'est humain d'avoir peur. Mais dans certaines circonstances, on ne doit pas laisser la peur diriger nos actions. Même, je dirais, on ne doit jamais laisser la peur diriger nos actions. Nos actions doivent être basées sur la réalité, sur des principes, sur les bonnes informations, et ainsi de suite. Alors, Ebed-Melet ne s'est pas laissé intimider. Il ne s'est pas laissé guider par la peur. Il aurait pu simplement, écoutez, il avait un bon poste, il avait une vie facile, là. Il aurait pu simplement rester tranquille, garder le silence, en espérant s'en tirer. Mais à ce moment-là, il aurait été avec les autres en captivité à l'armée de Nebuchadnezzar. Il aurait été emmené en captivité. Alors, première qualité, courage. Beaucoup de courage. Deuxième qualité, intégrité. Et ça, c'est une qualité que Dieu recherche chez vous et chez moi. C'est qu'on connaisse les vraies valeurs de la vie, les vrais principes bibliques, les principes chrétiens, et qu'on en vive Ça, c'est d'être intègre. C'est que nos actions et nos pensées reflètent ce que Dieu nous montre à faire dans sa parole. Et quand Ebed-Melech a fait ça, quand il est allé voir le roi, à son propre risque, c'est qu'à ce moment-là, lui, il démontrait qu'il avait plus de respect pour la vie humaine que ceux autour, et même que le roi sur Juda, sur la nation de Juda. Ça démontre l'intégrité de cet homme-là. Il agit avec sagesse, bien sûr, mais malgré le risque que les choses posaient pour lui-même. Sûrement qu'il a parlé à Dieu, on n'a pas de détails là-dessus, mais Ebed-Melech avait commencé à connaître le vrai Dieu. Ebed-Melech, on voit par le texte, même si ce n'est pas écrit noir sur blanc, qu'il croyait Dieu. C'est pour ça qu'il a agi comme ça. Et on va le voir encore plus clairement un petit peu plus loin. Un autre trait de caractère remarquable qu'Ebed-Melech avait, qu'on doit développer, c'est la compassion. Compassion, j'ajoute, avec délicatesse. Compassion avec délicatesse. On le voit quand il va chercher Jérémie dans le puits. On voit qu'il a pris des cordes pour le soulever, donc mettre en dessous de ses bras pour que Jérémie puisse être solidement attaché et qu'il puisse tirer dessus. Mais regardez ce qu'il a fait. Retournez au verset 12 du chapitre 38. Chapitre 38, verset 12. « Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ses lambeaux usés et ses haillons sous tes aisselles, sous les cordes. » Alors voyez-vous, une compassion, mais avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Il n'est pas allé simplement avec des cordes et dire, on va le sortir, il va venir. Il n'aura pas le choix, on a assez de force ici, il va venir. Mais il a pris le soin, le souci de prendre des vieux vêtements et dire à Jérémie, mets ça en dessous des cordes. Et là, mets les cordes et on va te sortir de là. Donc, on ne te fera pas de mal de plus à ton corps. Alors voyez-vous, compassion avec délicatesse. Encore un autre trait de caractère formidable que Dieu veut nous voir développer. Parce que des fois, on veut aider quelqu'un, et des fois, on s'y prend mal. Ou des fois, on va trop loin. On a de la misère avec nos mesures. Il faut demander à Dieu, dans ce sens-là, d'aider les autres, mais avec délicatesse, avec mesure. Maintenant, j'arrive à la première qualité. La qualité la plus remarquable de cet homme-là. La qualité qu'il avait, c'est qu'il avait une entière confiance en Dieu. Il croyait Dieu. Il croyait ce que Dieu disait. Et il croyait ce que Dieu disait à ce moment-là par la bouche de son serviteur Jérémie. On le voit par ses actions. S'il est allé aussi loin que ça, jusqu'à risquer même sa vie, c'est parce qu'il y croyait, il était absolument certain. Alors, foi en Dieu. Il mettait sa confiance en Dieu. Il n'a pas mis sa confiance dans le roi, il n'a pas mis sa confiance en personne d'autre. Écoutez, il était le seul à agir différemment que tous ceux autour de lui. C'était lui et Dieu. Et dans certaines circonstances, ça peut arriver qu'on se retrouve dans une situation où c'est nous et Dieu, qu'on n'a pas d'aide autour. Et là, il faudra vraiment s'attacher à la source de toute la puissance possible. Alors, Ebed-Melech, dans ce sens-là, avait une noblesse. Et sa noblesse, elle était faite du courage dont je vous ai parlé, de l'intégrité dont je vous ai parlé, et de la compassion délicate dont je vous ai parlé. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu a fait avec cet homme-là après. Faut que je vous donne le restant de l'histoire parce qu'il y a tellement d'encouragement là-dedans. Parce qu'Ebed-Melech a protégé la vie de Jérémie, même au risque de la sienne, Dieu a protégé par la suite la vie d'Ebed-Melech dans des circonstances où il ne pouvait pas s'en sortir. Écoutez, il y avait toute une armée, là, puis pas une petite armée, une grande armée. Vous avez une famine, vous avez des gens qui sont amers, qui sont violents partout. Et là, Dieu dit, je vais protéger cet homme-là. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, hein? Et il a protégé Ebed-Melech de façon fantastique. Allez voir dans Jérémie 39. Jérémie 39, juste un peu plus loin. Jérémie 39, nous allons lire les versets 15 à 18. Et on va voir ici ce que Dieu a fait avec Ebed-Melech. Vous savez, Dieu n'est pas inconscient de ce que vous faites. Les petites actions même que vous faites pour aider d'autres, pour encourager, pour servir, pour soutenir, pour aider de toutes sortes de façons. C'est écrit, je dirais, dans son grand livre. Sinon, dans sa mémoire et dans son cœur. Et Dieu attend le moment de vous bénir pour ces choses-là, parce que Dieu nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Et si notre semence, c'est d'aider les autres, Dieu nous aide. Et Dieu va nous aider. Regardez ici ce que Dieu a fait à Ebed-Mélec. Cet illustre inconnu, qui n'était personne, qui n'avait même pas de nom propre, qui n'avait pas de prénom personnel, pour ainsi dire, mais qui s'est positionné pour Dieu dans des conditions extrêmement contraires, extrêmement difficiles. Regardez ce que Dieu a fait avec lui. Jérémie 39, verset 15 à 18. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. « Va, parle à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, et dis-lui, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Il se présente à lui comme le grand Dieu d'Israël. Il dit, « Parle, lui, directement, de ma part. » Et regardez, « Voici, je vais faire venir sur cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. » Autrement dit, il confirme à Ebed-Mélec que ce qui a été annoncé par Jérémie, auquel Ebed-Mélec avait prêté attention, il dit, ça va se produire. Elles arriveront, ces choses-là, en ce jour, devant toi, Ebed-Mélec. Verset 17. Mais en ce jour, je te délivrerai. Regardez, c'est fantastique. Délivrer un seul homme dans tout ce grand nombre de personnes à Jérusalem à ce moment-là. Dieu dit, je te délivrerai, Ebed-Mélec, dit l'Éternel. Et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Alors, je vous disais tantôt que Ebed-Mélec avait peur. Il avait peur de ces hommes-là autour, bien sûr. Mais il a agi quand même. Il n'a pas laissé la peur l'empêcher d'avancer. Et regardez le verset 18, c'est superbe. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin. Parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voyez-vous ce que ça produit, le fait de développer confiance envers notre grand Dieu, de lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, de le remercier de ce qu'il va faire encore, même si on ne voit pas tout ce qui va s'en venir, mais qu'on sait que lui va être fidèle jusqu'au bout en ce qui nous concerne, quand on lui demande aussi en même temps de nous aider, nous, à être fidèles. Alors voyez-vous comment l'exemple d'Ebed-Mélec est formidable pour nous. Il nous enseigne beaucoup de choses. Exemple pour nous qui sommes membres de la famille de Dieu en préparation pour prendre soin du reste de l'humanité. Ce sont des encouragements pour nous, en fait, à faire tout le bien que nous pouvons pendant que nous sommes en vie, pendant que nous avons encore l'existence et que nous pouvons faire des choses. De faire tout le bien que nous pouvons. Allez dans Galates chapitre 6, s'il vous plaît. Galates chapitre 6, où il est justement question de ça, du bien qu'on doit faire. Galates chapitre 6, on va commencer à lire au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est ce que je vous dis. Et c'est ce qu'Ebed-Mélec a fait quand il a vu un besoin. Il est allé de l'avant avec sagesse et il est intervenu, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Dieu va nous bénir en conséquence. Si nous ne nous relâchons pas, et regardez le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, tout le bien qu'on peut faire, et surtout, envers les frères dans la foi, notre famille spirituelle, notre belle petite famille spirituelle qui est appelée à un si grand destin. » Reportez-vous maintenant pour un dernier verset qui est la conclusion de ce message dans Hébreux. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est ce que je vous disais tantôt. Les petits gestes que vous posez envers vos frères et vos sœurs, Dieu non seulement s'en rappelle, mais les considère et veut les bénir. vous bénissez les autres en faisant ça, Dieu va vous bénir, va continuer à vous bénir, devrais-je dire, parce qu'il l'a déjà fait beaucoup. Alors il dit, « Car Dieu n'est point injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, donc ne diminuez point cette approche, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite les promesses. » Dieu avait promis quelque chose de spécial à Ébed-Mélec et il lui a accordé. Dieu vous promet des choses à vous et à moi aussi, des choses spéciales. Et pour lui, c'est comme s'il nous les avait déjà accordées. Parce que si nous faisons notre part, c'est ce qui va arriver. Exactement. Verset 13. « Lorsque Dieu a fait une promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et on voit aujourd'hui, sur toute la terre, la multiplication qui s'est effectuée dans les descendants d'Abraham. Une promesse que Dieu a réalisée de façon éclatante, qu'on peut constater quand on comprend le plan de Dieu et quand on connaît la façon de Dieu de procéder. Alors, c'est pour ça que je récite le verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Cette promesse, elle est tellement, tellement riche et tellement enthousiasmante.